Ouvrir la dernière partie de la grande table, Lydia
Jesbert. Oui, je propose que pour l'ouvrir, on montre qu'à France Culture, on sait aussi accueillir nos auteurs. Merci Michel Brussy. Bonjour Frédéric Lordon. On peut les applaudir, je crois. Voilà. Bienvenue sur France Culture, si vous nous rejoignez maintenant. Nous sommes en direct donc, du Salon Livre Paris, le Salon du Livre de Paris. C'est la deuxième partie de la grande table avec Antoine Mercier jusqu'à 13h30. L'économie à l'honneur de ce troisième volet de notre série Élections 2017. Bonjour à tous dans l'actualité des idées. Aujourd'hui, la concurrence des souverainismes avec notre invité, l'économiste et philosophe Frédéric Lordon, chercheur au CNRS, auteur d'un blog La Pompe à Finances, hébergé par Le Monde Diplomatique, où il commente la vie politique européenne et la vie des idées. Auteur de La Société des Affects en 2013, suivi des Affects de la politique à la rentrée dernière au Seuil, de La Malfaçon, Monnaie européenne et Souveraineté démocratique en 2014, puis Dont achève bien les Grecs, Chronique de l'euro 2015, l'année d'après au lien qui libère. Dans La Malfaçon, Frédéric Lordon estime que le souverainisme de gauche est l'autre nom de la démocratie. Il va s'en expliquer. Bonjour à vous, Frédéric Lordon.
Bonjour.
Faut-il avoir peur des souverainistes? Je vais quelques instants me faire la voix de François Hollande face à des menaces protectionnistes, face à de l'isolationnisme, face à des empires qui ressurgissent. Il s'agit de montrer que l'Europe permet de faire à 27 ce que l'on ne serait pas capable de faire tout seul. Il y a 15 jours, à Bruxelles, le président de la République a appelé ses homologues européens à s'unir pour chasser les égoïsmes nationaux et contrer la poussée des souverainistes, des nationalistes et des extrémistes. Au fil des mots, Frédéric Lordon, on l'entend, une association d'idées, le souverainisme comme une menace intérieure pour l'Europe, comme un cancer pour l'Union plutôt que le cancer des nations. Est-ce qu'il faut avoir peur des souverainistes ?
À la manière dont la question est systématiquement posée dans les médias, la réponse espérée est toujours oui. Alors, moi, je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur un article dans Le Monde qui ne pouvait pas ne pas retenir mon attention et dont le titre est le suivant. Asselineau, Le Pen, Dupont-Aignan, Mélenchon, quatre nuances de souverainisme. Comment dire ? Je trouve ces procédés éditoriaux méprisables. On voit bien que tout est fait pour arriver à ce genre d'assimilation et qu'en réalité, la catégorie de souverainisme n'a été fabriquée que pour permettre de manufacturer à la chaîne ce type d'énoncé. Ce type d'énoncé qui empile une malhonnêteté intellectuelle sur une vilainie politique. Alors la malhonnêteté intellectuelle, je vais vous donner un équivalent. Supposez que l'auteur du même article ait écrit « Barrès et Robespierre, deux nuances à propos de la nation ». Ou alors, poussons le cochonnet carrément, hein. Barrès et Robespierre, deux nuances de nationalisme. Bon, si vous voulez, la personne serait disqualifiée définitivement. Et la vilainie politique, ben, elle est exactement celle dont vous dégagiez le principe. Il s'agit par une double assimilation de rabattre souveraineté sur souverainisme et puis souverainisme sur extrême droite. Si bien que l'idée de souveraineté, par transitivité, s'en trouve essentiellement souillée. Et que toute tentative de reconstruire le concept de souveraineté et la pratique politique de la souveraineté soit assimilable à quelque chose comme du fascisme.
Frédéric Lordon, moi je vais être un peu malhonnête intellectuellement puisque je suis journaliste, mais il est vrai que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, ces quatre candidats à la présidentielle, envisagent une sortie de l'Union sous condition et se revendiquent d'une souveraineté. Alors si vous n'êtes pas d'accord avec ça, comment s'y retrouver dans cette foire au souverainisme? Qu'est-ce qui les différencie, les quatre? Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Expliquez-nous.
La première chose à faire, c'est de reprendre le travail sur les catégories. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Qu'est-ce qu'on peut appeler souverainisme si vraiment on tient à rescaper la catégorie? Et qu'est-ce qu'un souverainisme de gauche dans ces conditions? Bon. Alors la souveraineté, moi je dis toujours la même chose, au risque de radoter. La souveraineté, c'est l'effort d'une communauté pour se rendre consciente et maîtresse de son destin. C'est ça, la souveraineté politique, dans son concept. Et vous voyez bien qu'ainsi, conceptuellement définie, cette souveraineté s'assimile en totalité au concept de démocratie, si bien que se déclarer anti-souverainisme ou anti-souveraineté en ce sens conceptuel c'est s'avouer antidémocrate. Pas de surprise à ce propos, hein. C'est vraiment ce qu'est la construction européenne. Elle est radicalement antidémocratique. On en parlera peut-être tout à l'heure, j'espère.
On va en parler.
Qu'est-ce que c'est que le souverainisme, si vraiment on veut en donner une définition non polémique ? Le souverainisme, c'est l'idée que ce principe général de la souveraineté ne trouve ses réalisations, ses effectuations historiques concrètes que sur le ressort fini d'un certain territoire-population, si vous me permettez ce mot valise. Et que cette souveraineté est constitutive de la communauté politique. Et qu'il faut bien reconnaître que les communautés politiques, par là, sont finies. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que le souverainisme de gauche ? Voilà la question décisive. Eh bien, le souverainisme de gauche s'attaque, lui, à la question subsidiaire. Une fois qu'on a dit que la souveraineté, en fait, c'était la position d'un décidé collectif. La souveraineté, ça se résume dans la formule « nous décidons ». Alors oui, il y a une question subsidiaire qui vient immédiatement. Qui est ce « nous » ? Quelle est sa circonscription ? Cette circonscription est-elle évolutive ? Sous quelle modalité ce « nous » entre-t-il en rapport avec les autres « nous » qui l'entourent ? Etc. C'est là que ça va se jouer la différence du souverainisme de gauche. Eh bien, le souverainisme de gauche, d'une part, il dit « le « nous » n'est en aucun cas défini en termes essentialiste, ethnique, par les racines, le territoire, les morts ou tout ce que vous voulez. Et il ajoute, les communautés politiques souveraines, si elles se reconnaissent comme finies, ça n'est pas l'humanité entière, une communauté politique, ça n'est pas le genre humain, comme le dit pourtant joliment l'international. Ces communautés politiques ne s'en reconnaissent pas moins interdépendantes. Et plus que ça, elles ne font pas que se reconnaître comme interdépendantes, elles travaillent à l'approfondissement de ces interdépendances. Mais elles y travaillent jusqu'à un point qui ne contrevient pas au principe de la souveraineté politique lui-même, ce qui signifie, et là je vous l'accorderai entièrement, qu'il y a dans le souverainisme de gauche une tension intrinsèque entre ces deux pôles. Tisser le plus grand nombre d'interdépendances possibles sans remettre en question l'effectuation, l'exercice de la souveraineté elle-même. Alors, mais ça veut dire plein de choses, ça, par exemple. Ça veut dire que travailler aux interdépendances, c'est intensifier les circulations. Les circulations de quoi ? Eh bien, non pas les circulations de conteneurs, de marchandises ou de capitaux. Les circulations d'hommes et d'œuvres. Vous voyez ? Un souverainisme de gauche, c'est celui qui évite effectivement le risque nationaliste du repli national quand on sort de l'euro ou de l'union par la droite, et qui va intensifier la circulation des touristes, des chercheurs, des étudiants, des artistes, et qui va développer les liens internationaux autant qu'on le peut, les traductions croisées. Alors, on est au Salon du Livre, ça tombe bien. Si vous savez, si l'Union européenne voulait vraiment travailler à la cause de l'Europe, elle multiplierait par 10 les crédits de traduction.
Donc, souveraineté de gauche, le peuple, souveraineté de droite, la nation. Mais dans cette idée de rendre la maîtrise de son destin à une communauté, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un souverainisme du peuple européen ? Un souverainisme de gauche du peuple européen ?
Mais je l'accorde sans la moindre difficulté, en principe. En effet, l'histoire nous a abondamment montré, et un philosophe qui est cher à mon cœur d'ailleurs, dans le traité théologico-politique le dit, mais très explicitement, la nature ne crée pas de nation. Ceci signifie, et c'est cet exemple-là que l'histoire nous a montré abondamment, que la circonscription des nations est profondément évolutive, que les nations sont des constructions historiques, et qu'on peut même former des peuples de peuples. La nation française, qui passe pour être le parangon de la nation unitaire, centralisée, etc., a été en fait l'agrégation de diversité, mais tout de même qu'ont procédé les unifications allemandes, italiennes, etc. Donc, pourquoi ne pas envisager, en effet, un dépassement des circonscriptions nationales actuelles pour cheminer vers une communauté politique à une échelle territoriale étendue ? Évidemment, ça s'envisage en principe. Je vous ferai remarquer au passage, d'ailleurs, que contrairement à ce que disent beaucoup des tenants de l'européisme, si vous me passez le mot polémique, il ne s'agit absolument pas de rompre ni avec la souveraineté, donc avec le souverainisme, ni avec le principe de l'État-nation. En aucun cas. Il s'agit simplement de redéployer ces principes à une échelle territoriale étendue. Et il s'agit bien de reconstituer une souveraineté européenne, un peuple européen, une citoyenneté européenne, etc. etc. Alors, je l'accorde en principe. Mais après, la question est pratique, historique, conjoncturelle. C'est celle des conditions de possibilité de ce franchissement. Ces conditions sont contingentes, et je dis que pour l'heure, elles ne sont pas remplies.
Et on les retrouve dans l'Europe, on la change, on la quitte, de Jean-Luc Mélenchon notamment, qui peut, qui envisage quand même de creuser ce sillon, enfin en tout cas qu'il évoque dans son plan A, c'est pas à l'ordre du jour dans le plan B. A contrario, juste Marine Le Pen aussi se propose de servir l'intérêt des peuples, en demandant le rapatriement des souverainetés monétaires, législatives, budgétaires et territoriales.
Elle se propose même de servir l'intérêt des salariés et des ouvriers. C'est vous dire que le mensonge règne à tous les étages. Donc, moi, je ne prendrai pas à leur valeur faciale ce genre de propos.
La nature ne crée pas de nation, mais il se trouve que l'histoire en a créé. Nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui. En France, si l'on veut retrouver une souveraineté, vous nous parlez d'une souveraineté de droite qu'on connaît, et puis d'une souveraineté de gauche qui est tout de même relativement difficile à différencier concrètement de la souveraineté de droite, en ce sens que ce qui existe pour l'instant en tant que frontière, en tant que possibilité de faire un « nous », ce sont les frontières nationales. C'est à partir de la nation française que ça peut se reconstituer. Et la possibilité de faire autrement semble difficile. Donc la différence, certes, est forte sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, elle ne l'est peut-être pas aussi grande.
Elle est très grande et elle l'est à deux niveaux différents. Il y a la perspective de long terme que vous évoquez, la reconstruction, la construction plutôt, la construction historique par dépassement des nations présentes d'une communauté politique d'échelle étendue qui serait une communauté politique européenne. Ça, c'est la perspective de long terme. Ça fait quand même une différence qui est tout à fait importante. Mais il y a une différence de court terme, si j'ose dire. C'est que, si vous voulez, lorsqu'on a dit « sortie de l'euro », on n'a pas dit grand-chose. Parce que de l'euro, on peut sortir par des bords très opposés. Vous pouvez sortir par le bord de droite. Alors, ce n'est pas une sortie de l'euro, mais c'est une sortie de l'Union. Le Brexit, par exemple. Le Brexit, c'est typiquement la sortie par la droite de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que le projet politique du Brexit? C'est un projet de redéploiement des rapports de domination propres à l'ordre capitaliste sur une base nationale. Bon, et sur une base nationale. Et en même temps, il ne faut pas se laisser abuser. On entend dire « le Royaume-Uni va se couper du monde ». Mais enfin, c'est une faribole. Il faut prendre vraiment les gens pour des demeurés, pour leur servir une soupe pareille. Comme si le Royaume-Uni n'allait pas commercer intensément, et avec l'Europe même.
C'est pour ça que les marchés n'ont pas...
Il y a 180 nations à la surface de la Terre qui n'ont pas l'extrême bonheur d'appartenir à l'Union européenne. Alors elles sont coupées du monde ? Mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? Bon, donc on peut sortir par la droite de l'euro, mais on peut aussi sortir par la gauche. Ce qui veut dire sortir par la gauche, ça veut dire que rompre avec l'euro est une condition nécessaire, mais en rien suffisante. Rompre avec l'euro est le levier qui permet de changer radicalement le modèle de politique économique dans son entier, pour le réorienter vers des objectifs qui sont des objectifs progressistes. Alors là, ça n'a rien à voir. C'est se couper de la financiarisation, ou en tout cas en limiter les effets néfastes très sévèrement. C'est réorienter les politiques budgétaires pour éviter les ravages de l'austérité, etc., etc. Donc, sortie de l'euro, si vous voulez, tant que vous ne l'avez pas qualifié, tant que vous n'avez pas dit ce que vous faites avec, vous n'avez rien dit. Et il y a une manière de gauche de dire ce qu'on fait avec.
Et est-ce que quelqu'un dans la campagne dit une manière de gauche par rapport à l'Europe qui vous conviendrait à peu près, en tout cas le moins mal ?
Écoutez, c'est difficile parce que toute prise c'est difficile ce genre de question parce que toute prise de position en cette matière est inévitablement reconvertie dans la grammaire du soutien,
voilà, quand ça n'est pas de l'appel
à voter, etc. Je vais répondre quand même. Ouais. Pour toutes les réserves que j'ai vis-à-vis de sa candidature, mais ça serait un autre sujet. Il est indéniable, à mon avis, que, sur le papier, clause importante, c'est le programme de Mélenchon qui se rapproche le plus de cette sortie par la gauche de l'euro.
Et justement, l'Europe est devenue, on a le sentiment en tout cas, le principal obstacle de l'union de la gauche, version Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui les différencie réellement sur ce point-là?
Alors là, si vous voulez, il faut faire un petit détour par ce qui me semble être un des problèmes intellectuels et inséparablement politiques de l'époque, qui est le fléau du nominalisme. On confond le mot et la chose, et on suppose que la continuité dans les mots correspond à une continuité dans les choses, et il n'en est rien. Donc lorsque vous dites qu'il y a un débat à l'intérieur de la gauche, je me demande ce qu'il faut appeler véritablement gauche. Bon. D'un certain point de vue, on peut considérer que le choix inconditionnel pour la construction européenne, la monnaie unique telle qu'elle est, sans aucune ambition de la transformer sérieusement, interdit de qualifier les partis anciennement dits de gauche de gauche. Voilà, pour moi, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il n'y a aucune politique progressiste possible dans le cadre actuel et intransformé des institutions européennes. Aucune. Alors, c'est un contentieux, si vous voulez, idéologique et politique, qui remonte à très loin. Souvenez-vous de cette une de Paris Match, à l'occasion du traité constitutionnel européen, où on voyait François Hollande et Nicolas Sarkozy se faire des mamours pour appeler toute la population à voter oui. Pas le péché originel, en quelque sorte, il est là. Bon, à partir de là, la ligne de partage des eaux est extrêmement claire. Il y a ceux qui sont résolus à transformer ces institutions moyennant l'engagement du rapport de force adéquat, et il y a ceux qui ne le veulent pas. Et ça dessine deux camps qui sont inconciliables. Alors effectivement, entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, il n'y a pas de recouvrement possible, parce que ce point-là est un point de dissensus irréductible. Alors, on me dira, il y a un projet de traité additionnel qui est défendu par Benoît Hamon, et qui soutiendrait la création d'un Parlement européen. Mais je vous prie de m'excuser, je l'ai lu. Ça prêterait à rire si ça n'était pas aussi sérieux. D'abord, il faut reconnaître avec honnêteté que le texte produit par les équipes de Benoît Hamon l'admet volontiers. C'est un traité complémentaire qui ne change rien à l'édifice des traités tels qu'ils sont actuellement et qui les complètent. Mais qui les complètent comme cautère sur une jambe de bois, c'est-à-dire qui ne modifie pas la logique profonde qui est inscrite dans le marbre quasi-constitutionnel des traités européens. Or, c'est là que gît le problème. Si bien que le traité, le Parlement de Benoît Hamon, il est cul-de-jatte et manchot. Enfin, je veux dire, tout ce qu'il pourra faire, c'est du bruit avec la bouche. Mais il ne changera rien de véritablement fondamental.
Mais est-ce qu'on peut changer fondamentalement quelque chose? Parce que vous nous dites, Frédéric Lordon, que les institutions européennes, l'Europe tout simplement, est fondamentalement antidémocratique, responsable en tout cas de cette atonie démocratique. Est-ce que l'Europe a été conçue, pour vous, dès son origine, c'est ce que disait Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec, pour fonctionner de manière non démocratique, pour empêcher toute contestation, ou est-ce qu'elle peut quand même se réformer?
Varoufakis a raison de ce point de vue. Je déplore qu'il n'en tire pas logiquement les conclusions qui s'en suivent, mais en tout cas, au niveau du diagnostic, je le partage entièrement. Et c'est pour ça, si vous voulez, on en revient à notre discussion du début, que la souveraineté est une question aussi décisive et qu'il importe pour tous ceux qui ont maille à partir avec la défense de l'ordre actuel de disqualifier cette idée en isme, en souverainisme, etc. Pourquoi ? Parce que la souveraineté, c'est l'expression de la puissance collective, c'est-à-dire d'une puissance macroscopique qui est en vérité la seule à même de s'opposer à l'autre puissance macroscopique, celle qui se propose de placer toute la société sous son emprise, à savoir la puissance du capital. Alors effectivement, dans ces conditions, la souveraineté politique, seule puissance collective opposable aux puissances privées du capital, devient l'ennemi. Alors il y a un chercheur, un intellectuel, un philosophe qui avait très bien compris ça, c'était Hayek. Hayek soutenait que la structure fédérale d'un État était la moins mauvaise possible de son point de vue parce qu'elle dilue la souveraineté, elle dilue la puissance politique et elle permet de laisser le plus libre cours possible aux puissances privées qui sont celles du capital. Alors, il faut être juste, la structure fédérale a d'autres mérites. Elle n'a pas que des inconvénients. Mais dans le cas de l'Europe, le message a été reçu 5 sur 5. Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne a organisé le démantèlement des souverainetés nationales sans reconstruction d'une souveraineté politique au niveau européen.
Frédéric Lordon, une question d'Antoine Mercier. Voilà.
Je vais vous prendre par les sentiments, Frédéric Lordon. Ah. Est-ce que Emmanuel Macron n'entraîne pas un affect, des affects positifs dans cette campagne, en faisant bouger, comme on dit, les lignes, et mettant en mouvement, malgré tout, on le voit quand même partout en France, des personnes qui se mobilisent dans cette campagne pour essayer de transformer leur vie quotidienne.
Je vais répondre un peu de travers ou en deux temps à votre question, le premier étant une sorte de prolongement de ce que je viens de dire à l'instant. Car la stratégie européenne, en réalité, ne peut pas aller jusqu'au bout de la démolition des souverainetés nationales, et donc elle est mixte. Si vous voulez, elle consiste en démanteler les souverainetés là où elles existent autant qu'on peut et conquérir les débris, occuper les gravats. Alors voilà, oui, de ce point de vue, Macron, c'est l'homme idéal, c'est parfait. Bon, Vous avez le vide de souveraineté au niveau européen, et puis vous avez l'homme du capital, n'est-ce pas, qui occupe les débris. Alors ça, c'est la combinaison parfaite, hein. C'est ceinture et bretelles, donc on est paré pour faire face à toute éventualité, et par derrière, le monde fait le service après-vente idéologique en vous expliquant que toute tentative de s'opposer à ce genre de dynamique est essentiellement fasciste. Alors maintenant, sur les affects qui sont à l'œuvre autour d'Emmanuel Macron, ben, mais si vous voulez, il y en a trivialement comme il y en a autour de tous les candidats à une élection présidentielle. Alors maintenant, il s'agit de savoir quel est leur contenu et quelle est leur échelle, quelle est leur intensité et quelle est leur extension. Moi, je persiste à croire, en dépit de tout ce qu'on nous raconte, que Emmanuel Macron est un candidat sans base sociale réelle et qui ne parcourt sa trajectoire que sous l'effet de puissantes et permanentes injections de stéroïdes sondagio-médiatiques. Voilà. Et que ça peut faire une élection. Oui, ça peut faire une élection. Mais ça ne fera pas un mandat très tranquille. Qu'est-ce que c'est que la base sociale de Macron? C'est les start-upers et ceux qui se fantasment en Bill Gates et en Mark Zuckerberg de l'avenir. Bon, ça fait des gens qui font... C'est, si vous voulez, c'est une fraction de la classe bourgeoise qui fait du bruit comme 15. Ah ça, c'est le propre de la classe bourgeoise. Elle sait faire du bruit comme 15. Mais, si vous voulez, comme disait Platon, dans les profondeurs du pays, il y a le gros animal. Et lui, on ne lui donne pas la parole. Sauf les jours d'élection, et quand il la reprend, c'est en général pour tout foutre en l'air.
Invité de cette deuxième et dernière partie de la Grande Table aujourd'hui, l'économiste et philosophe Frédéric Lordon, assis mais toujours debout, de jour comme de nuit. France Culture, il est 13h18.
France Culture, la Grande Table, Olivia Jesper.
Non, c'est pas terminé, c'est la suite. On est ensemble jusqu'à 13h30, Frédéric Lordon. Aujourd'hui, journée spéciale sur France Culture, l'économie à l'heure des choix. Justement, parlons-en. Quels sont pour vous, Frédéric Lordon, les grands choix économiques qui devraient s'imposer dans cette campagne et surtout qui seront à l'ordre du jour des 5 prochaines années pour le ou la future président, présidente ? Ceux auxquels il ou elle sera confronté à l'avenir. En ce moment, on parle beaucoup de la question de l'austérité, renégocier la dette, le respect de la règle des 3%. On parle aussi protectionnisme dans cette campagne, inégalité un petit peu, sans trop y apporter de solutions, du nombre de fonctionnaires à réduire ou à augmenter, c'est-à-dire du plus ou du moins d'État. Quels sont pour vous les grands thèmes, les vrais thèmes qui devraient s'imposer aujourd'hui ?
Mais écoutez, on n'a parlé que de ça. La question préjudicielle, la question préalable à toute autre question de politique économique est la question européenne. Et, je dirais plus généralement, c'est la question des structures, de la configuration des structures macroéconomiques. Alors, c'est un peu abstrait, c'est un peu lointain, c'est un peu difficile à saisir, mais c'est d'une importance en réalité capitale. Vous savez, on reproche souvent, non sans raison, aux libéraux d'en tenir pour l'adage thatchérien selon lequel il n'y a pas d'alternative. Mais on est obligé de reconnaître d'une certaine manière que cette maxime, il n'y a pas d'alternative, est vraie, elle est objectivement vraie. Alors ça doit paraître tout à fait surprenant que moi je dise une chose pareille, donc il faut que je complète mon propos. Il est vrai qu'il n'y a pas d'alternative dans le cadre des structures telles qu'elles ont été établies présentement. Et que pour reconstituer des alternatives, il faut impérativement modifier les structures du cadre. Tant qu'on est dans le cadre, nous sommes voués aux différentes secondes. C'est la raison pour laquelle, d'une manière qui n'était peut-être pas très gracieuse, j'expliquais il y a un certain nombre d'années que, dans ces conditions, la différence entre ce qu'on appelle la gauche à tort et la droite réside surtout dans la différence de la taille des serpillières. Alors, la gauche, grande serpillière, la droite, petite serpillière, pour éponger les dégâts. Mais il faudrait peut-être faire venir le plombier, si vous voulez, pour refaire les canalisations. C'est un peu ça l'idée, en quelque sorte.
Et le cadre, comment vous le définiriez, ce cadre ? Est-ce que c'est le capitalisme, la financiarisation, l'Europe ?
On peut l'envisager à différents niveaux d'abstraction, mais pour faire simple, on va considérer la configuration historique présente du capitalisme, qui est le néolibéralisme. Ce cadre, c'est celui de ce qu'on pourrait appeler génériquement la mondialisation, réfractée au travers des institutions européennes. Et il consiste, je dirais, en trois choses. Premièrement, la financiarisation internationale. Deuxièmement, le libre-échange international. Troisièmement, un certain type de politique économique dont l'Union européenne donne l'expression alors quasiment pure et parfaite. C'est-à-dire ce qu'on résume habituellement sur le thème de l'ajustement structurel, les privatisations, l'orthodoxie budgétaire, etc., etc. Tant que vous n'avez pas modifié ces choses-là, vous êtes voué à agir sur le deuxième chiffre derrière la virgule.
Mais on n'a pas besoin de tout faire sauter, Frédéric Lordon, avec une bonne petite dose de protectionnisme, on s'en sort pas mal, non ?
Ah, écoutez, alors ça dépend ce qu'on appelle tout faire sauter, hein. Puis alors, c'est chacun selon son appétit politique. Alors, en effet, moi, c'est pour ça, par exemple, regardez, en matière de financiarisation, j'ai l'habitude de présenter un menu à la carte. Selon vos désirs de venir à bout de la finance. Alors, dans ce modèle, dans ce menu, il y avait une option, c'était en quelque sorte l'apéritif, que j'appelais le SLAM, qui consiste en un impôt qui écrète la rémunération actionnariale. Vous voyez, on ne touche pas beaucoup au marché, on ajoute juste un impôt, mais qui peut avoir des effets très puissants. Alors, pour ceux qui ont un peu plus faim, et il y a le plat de résistance, qui est la fermeture de la bourse. Alors évidemment, si vous voulez, ça nous paraît lunaire, une chose pareille. Mais forcément, après 3 décennies de lavage des cerveaux, la déréglementation des marchés, la prospérité et la jovialité de la bourse, ça nous paraît des choses de nature. Mais il faut se souvenir qu'il y a une époque pas si lointaine où la bourse était une institution financière croupion, dont la place dans l'économie française était tout à fait marginale.
Mais ça changerait quoi ?
Ah ben, ça change énormément de choses. Ça change que, par exemple, les entreprises cesseraient de délocaliser pour aller rechercher sur un site en Pologne ou ailleurs un relèvement de la rentabilité financière. Ça changerait qu'on cesserait de fermer des sites parce que 9% de rentabilité sur capitaux propres, ce n'est pas assez, et qu'on en veut 15. Voilà ce que ça changerait. Ça ferait, je peux vous le dire, une sacrée différence.
Donc c'est une forme de soutien. Ah, il y avait un troisième point ?
Non, c'est pas un plat de résistance, il y a un dessert ou pas ?
Ah oui, il y a le dessert. Bah oui, il y a le dessert. Alors le dessert, c'est la pièce montée. Hein. Donc là, il faut en avoir gardé sous la pédale. Le dessert, c'est l'affranchissement avec les rapports de la propriété financière. Si vous voulez, alors là, on touche au cœur du capitalisme lui-même. Hein. Qu'est-ce que c'est que le cœur du capitalisme ? C'est que la propriété financière donne le pouvoir. Et fait du délégué des actionnaires le seul maître à bord après eux. Vous voyez ? Bon, alors ça, évidemment, ça établit dans l'entreprise, mais alors, Pépé Marx avait vu ça dès l'origine, ça établit dans l'entreprise des rapports qui sont le contraire absolu de tout ce qu'on pourrait entendre, même avec indulgence, sous le nom de démocratie. Ça établit des rapports qui sont ceux du salariat même, des rapports de subordination hiérarchique. Il y a quand même quelque chose d'étonnant dans l'esprit du temps qui se gargarise des valeurs démocratiques, des valeurs d'égalité, de citoyenneté, etc., mais qui condamne la population salariée à vivre 8 heures par jour, c'est-à-dire la moitié de son temps éveillé, sous des rapports de subordination hiérarchique. Donc, tous les salariés connaissent très bien les effets, particulièrement en période de crise. Ça les fait vivre dans l'angoisse, et dans la peur. Alors là, vous voyez, on parlait d'affects, hein. Alors là, il faudrait parler des affects salariaux. Et il y a cela. Alors oui, se libérer de la propriété financière comme instance de dévolution du pouvoir politique dans l'entreprise, ah oui, ça c'est quelque chose. Ça c'est la fin du banquet.
America first, l'Amérique d'abord, c'est le slogan de Donald Trump. Si un candidat dit Friends first, la France d'abord, ça vous fait un programme ou pas ?
Non, évidemment que ça ne fait pas un programme. Évidemment non. Mais enfin, ceci dit, commencer à discuter des vertus analytiques des slogans de campagne, forcément, hein, c'est comme si vous me demandiez, et alors, En Marche, ça fait un programme ? Ça fait un projet ? On pourrait poser la question peut-être, j'ose à peine, En Marche vers où ? Ben, vous voyez,
il y a un point d'exclamation.
Et la réponse est dans le pêle-mêle et dans les petites annonces, bon, ou aux objets trouvés. Non, vous voyez, non, c'est pas sérieux. Alors, et America first comme France first, ça serait aussi peu sérieux.
Et est-ce que Nuit debout, again, va reprendre? Est-ce que, comment le mouvement évolue? Est-ce qu'il continue?
Non, mais moi je n'en sais rien, parce que Nuit Debout est une espèce de corps collectif qui vit de sa vie propre. Alors, ce que je peux vous dire tout de même, c'est deux choses. C'est qu'il y a des projets de célébrer le 32 mars. Bon, alors voilà, ça c'est bien. Moi, je trouve que ça c'est bien. Et puis, il y a des projets de manifestation. Alors, Nuit Debout s'y associera, je suppose. Des projets de manifestation le 22 avril, qui est, ça ne vous aura pas échappé, la veille du 23. Et puis également le 23, parce que le 23, probablement, on va en avoir la mâchoire décrochée. Bon, et qu'il va falloir qu'il sera temps de réagir. Pourquoi est-ce que ces mouvements sont plus que jamais à l'actualité politique? Parce qu'on voit bien qu'on est dans un état de crise terminale des institutions présentes. Et précisément que cette crise terminale se diagnostique alors à toute une série de choses. D'abord, à l'extraordinaire instabilité de la campagne, alors qui, si vous voulez, des rebondissements pareils, qui ne sont pas accidentels. Je veux dire, tous ces rebondissements faramineux, l'éviction de Hollande, les costards de Fillon, etc., sous le vernis anecdotique, sont les expressions locales d'une nécessité très profonde, qui est celle de l'entrée en agonie des institutions politiques, avec les déplacements considérables qui sont en train de s'opérer. Si vous voulez, pour avoir vu percer une candidature telle que Macron, qui réunit de Robert Rue à Alain Madelin, c'est vraiment que on marche sur la tête, ou alors qu'il y a une escroquerie de très grand format qui est dans le tuyau, ce qui serait également mon hypothèse. Alors voilà, la crise terminale de ces institutions politiques, elle se diagnostique symptomatiquement à toutes ces petites manifestations et profondément au fait que, en réalité, depuis 30 ans, il a été impossible de renouveler sérieusement l'offre politique et d'y faire percer ce que j'appellerais une différence significative. C'est bien là la raison de la montée constante du Front National. C'est la fermeture de toute différence. Et le peuple électoral est mort de faim. Si bien qu'il se jettera sur la première différence qui passera dans son champ de vision, fût-ce la pire. Et la seule différence qu'on laisse prospérer, c'est celle de l'extrême droite, parce que c'est le repoussoir idéal.
Merci beaucoup Frédéric Lordon. Dernier ouvrage paru, Les affects de la politique, c'est au seuil. Merci mille fois à vous. Un rendez-vous à vous indiquer cette journée spéciale élection 2017 continue donc sur l'antenne de France Culture, à retrouver entre 18h20 et 20h l'émission d'Hervé Gardette en public du studio 104 avec 5 économistes engagés auprès des candidats qui débattront des enjeux économiques de l'élection présidentielle: Jacques Généreux, Julia Caget, Philippe Martin, Robin Rivaton et Bernard Monod seront tous autour de la grande table d'Hervé Gardette ce soir, donc en direct du studio 104 de la Maison de la Radio. Un grand merci à toute l'équipe de notre grande table. Perret Legras aujourd'hui avec Emmanuel Morse, Duncan à la technique. Émission conçue et préparée par Claire Maillot et Clémence Marie. Julien Rosa et Nicolas Dutan avec Copelia Ménardi et Andrea Kinapi. Merci à vous Antoine Mercier aussi de nous avoir accompagnés depuis midi et demi à lundi. Merci enfin aux équipes techniques de Radio France, Alexandre James et Rémi Gourion. Vous pouvez nous retrouver sur la page de la Grande Table sur franceculture.fr, nous podcaster et nous écrire si vous le souhaitez. Très bon week-end à tous, en direct ou pas, du Salon du Livre de Paris.